France Inter.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français.
Et tous les autres, bienvenue dans Enquête de politique. Ce soir, nous marchons sur les braises, nous évoquons les mots qui fâchent et entravent le débat sur la question israélo-palestinienne. Une conversation avec l'historien Vincent Lemire et le journaliste Dov Alphon. Une conversation enregistrée en fin de semaine dans les locaux du quotidien Libération. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
C'est une émission un peu particulière aujourd'hui. Enquête de politique s'intéresse, vous le savez, aux idées politiques, aux grands courants idéologiques, aux ismes, mais aussi aux conditions du débat politique, médiatique, intellectuel, universitaire. C'est ainsi que nous avons consacré récemment des numéros à retrouver en podcast sur le complotisme, sur le bolorisme. Et avec l'écosystème médiatique où domine désormais le tout info et les réseaux sociaux, plus que jamais, les politiques, les universitaires, les journalistes, mais aussi tout un tas d'intervenants, des citoyens, internautes, prennent part quotidiennement à ce que l'on pourrait appeler la grande conversation nationale. Et dans cette grande conversation nationale, chacun n'a pas tout à fait le même poids. D'ailleurs, je me demande à bien y réfléchir si ce terme « grande conversation nationale » est le bon tant les publics de nos médias, les canaux d'information sont divers et fonctionnent en silo. Toujours est-il que les débats qui nous agitent paraissent de plus en plus polarisés. On assiste, en lieu et place du dialogue, à une guerre des récits. J'ai appelé un peu pompeusement cet épisode d'Enquête de politique en paraphrasant Michel Foucault « Les mots et les choses ». Du débat politique, Michel Foucault expliquait qu'il existe un certain nombre de conditions de vérité qui décident ce qu'il est possible et acceptable de dire à un certain moment, et ces conditions varient. Les conditions du discours et donc du débat varient selon les époques, et l'on pourrait ajouter aujourd'hui selon les canaux de discussion. S'entendre sur les mots avant de débattre, s'entendre sur la réalité factuelle et la façon dont on la caractérise, voilà ce que nous ne semblons plus capables de faire sereinement. Le conflit israélo-palestinien nous en donne un terrible exemple. Terrorisme, sionisme, antisionisme, antisémitisme, islamophobie, génocide. Pourquoi tous ces mots, faits pour décrire le réel, sont souvent devenus des mots bloqueurs de débat? Pourquoi la citation de Camus « Mal nommer les choses » s'est ajoutée au malheur du monde est devenue un pont de l'analyse politique. Ici, on aime bien les ismes, et j'aurais pu appeler cette émission le nominalisme. Le nominalisme a été inventé, c'est un mot qui a été inventé par le philosophe scolastique Jean Rosclin au XIe siècle, et Wikipédia nous dit que le nominalisme est une doctrine d'après laquelle les idées générales, les catégories, les genres et les espèces, les concepts n'ont d'existence que dans les mots servant à les exprimer. Mais je n'ai pas convié de philosophe ce soir, plutôt de praticien des mots et du débat, un historien et un journaliste qui participent à la grande conversation nationale. Nous sommes dans les locaux de Libération, accueillis par Dov Alphon, le directeur de la publication de ce journal, qui est aussi le journal dans lequel j'officie. Vous êtes l'auteur, Dov Alphon, d'un polar, Unité 8200, édition Lina Lévy, et vous avez, dans une autre vie, été rédacteur en chef du Haaretz, le grand quotidien israélien. Bonsoir, Dov Alphon.
Bonsoir, toi.
Les auditeurs de France Inter vous connaissent bien parce qu'ils vous retrouvent chaque mardi matin à 7h15 avec Nicolas Demorand. Et nous sommes avec Vincent Lemire, que les auditeurs de France Inter connaissent aussi, historien, auteur de la série de podcasts Israël-Palestine, Anatomie d'un conflit avec l'ami Thomas Negaroff, podcast que vous pouvez retrouver sur l'appli Radio France, tout comme le numéro d'Enquête de politique sur le sionisme que nous avions fait ensemble. Et vous êtes aussi l'auteur de Histoire de Jérusalem avec Christophe Gauthier. C'est une BD et c'est aux arènes. Bonsoir Vincent Lemire.
Bonsoir.
Il y a des millions, 2,5 millions de personnes qui sont dans une situation de souffrance. On coupe la nourriture, on coupe l'eau, on coupe l'électricité, on coupe le gasoil. Et maintenant, le déplacement de la population. Nous avons tous les éléments caractéristiques d'un génocide vis-à-vis de cette population de 2 millions.
Qui aujourd'hui pourrait nier le fait que de manière évidente, l'antisionisme est une forme renouvelée d'antisémitisme? Derrière les slogans, on voit bien évidemment la haine.
Alors, Dov Alphon, je commence par vous. Je reprends ma liste de mots à problème. Comment on fait à Libération quand on dirige un grand journal national comme Libération pour se dire quels sont les mots qu'il ne faut mieux pas prononcer, qu'il ne faut mieux pas écrire, qu'il ne faut mieux pas mettre dans le débat? Est-ce qu'il y a des mots à problème? Est-ce qu'il y a une liste de mots? Est-ce qu'on en débat? Comment on établit tout ça?
Déjà, Libération n'étant pas un journal comme les autres, il y a très peu de diktats du directeur sur ce qu'il faut écrire ou ce qu'il faut ne pas écrire. Donc même au niveau des mots, on peut avoir un chroniqueur qui utiliserait, par exemple, tout à fait naturellement le mot islamophobie, et peut avoir face à lui un chroniqueur qui refuse d'utiliser ce mot et qui va donc dire haine des Arabes, etc. Et chacun a ses propres explications. Le directeur ne va absolument pas obliger quelqu'un à utiliser un mot qu'il ne veut pas utiliser.
Alors, on va s'arrêter sur ce terme parce qu'il fait polémique depuis des mois, des années, et puis récemment il a refait polémique, et dans Libération, j'ai dit que j'étais billettiste dans Libération, vous faites l'édito de la page 2, c'est-à-dire de l'événement, de ce qui fait la une. Le directeur en charge du bouclage, c'est un peu technique, mais on explique un peu les coulisses à nos auditeurs, fait l'édito, la colonne de la page 2 ou de la page 3. Et puis, il y a des billettistes derrière qui éventuellement complètent. Et vous, vous avez choisi d'utiliser le mot islamophobie
oui.
ou pas oui.
Oui, moi je l'utilise depuis que je suis arrivé ici, quand mon premier édito déjà comprenait ce mot. Je pense que pour moi, ce réflexe, cette décision vient de l'histoire du mot antisémitisme. Antisémitisme a été inventé par un journaliste allemand qui n'était pas satisfait du terme qui était en Allemagne « la haine des Juifs », parce qu'il voulait donner, comme le Troisième Reich, une connotation scientifique à cette haine. Donc ça ne pouvait pas être « la haine des Juifs ». Ça devait être un terme racial. Et donc, il a décidé que antisémitisme serait parfaitement ce qu'il cherchait. Et donc, il l'utilise, et pendant des mois, des journalistes de sensibilité de gauche ou des anti-hitlériens n'utilisaient pas le terme antisémitisme. Ils utilisaient haine des Juifs, parce que c'était l'extrême droite allemande qui utilisait le mot antisémitisme.
Et qui l'avait produit même.
Ouais. Et qui l'avait produit, exactement.
Ah ouais. Je ne savais pas ça.
Mais après quelques années, quand le public, quand les lecteurs ont compris le mot antisémitisme exactement comme il est, c'est-à-dire haine des Juifs, il n'y avait aucune raison de faire cette distinction. Et donc, le monde est passé assez naturellement à utiliser le mot antisémitisme sans connaître ses racines racistes.
Et c'est un mot qui peut évoquer à la fois l'extermination des Juifs et puis le fait d'avoir certains stéréotypes sans vouloir donc c'est très très large.
Mais bien sûr, c'est les préjugés racistes. Comment
vous en êtes venu à vous dire que l'islamophobie devait être le pendant?
C'est instinctif. Vous l'avez dit, il faut écrire chaque soir un édito. Ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'il est souvent écrit en 20 minutes, voire en 10.
Moment du bouclage.
Il faut utiliser des termes avec lesquels on est naturel. Il n'est pas question de commencer à arrêter le bouclage. Et pour moi, islamophobie fait partie de ces termes qui sont refusés par beaucoup à gauche, la gauche laïque, etc., ce que je respecte. Et donc, je les laisse ne pas l'utiliser et utiliser d'autres termes.
Alors, pour être
et
tout
pour
à fait,
moi, oui. c'était exactement le pendant. Et comme c'est le terme qui est utilisé aujourd'hui en France, je ne vois aucune raison de commencer à le boycotter.
Alors, Vincent Lemire, je vais vous donner la parole. Mais pour être tout à fait clair, et puisque j'ai dit que je travaillais aussi à Libération, je suis billettiste, il y a eu un débat intéressant entre Luc Levaillant, un autre billettiste, et vous, et un peu moi, puisque moi j'ai fait un édito aussi pour dire que je n'utilisais pas avant ce mot-là, parce que je trouvais que sous ce terme, on mettait aussi ceux qui critiquaient l'islam, comme on peut critiquer une religion, ou qui combattaient culturellement et politiquement l'islamisme. Et ça me paraissait être un amalgame qui n'était pas bien. Mais en vérité, j'ai constaté qu'il était installé dans le débat et qu'on ne combat pas des mots qui sont installés et qu'il faut mieux se battre pour l'acception des mots plutôt que se battre contre un mot. Le mot « identité » a changé d'acception. Au temps de Fernand Braudel, dans les années 80, l'identité de la France, c'était notre caractère, nos paysages. Aujourd'hui, l'identité de la France, quand on dit « identité de la France », on pense aux racines et à l'ethnicité, peut-être même à la religion. Ça vient de l'offensive de l'extrême droite. Et puis Nicolas Sarkozy a lié institutionnellement « identité » et immigration en lui donnant une autre acception. C'est pas pour ça que je vais refuser, puisque cette acception ne me plaît pas beaucoup, ce mot. Luc Levaillant, lui, de son côté, pense qu'il faut tenir bon et que c'est de la rigueur intellectuelle que de refuser ce mot islamophobie parce qu'il est encore trop chargé d'une acception qui finalement mélange ceux qui considèrent que l'islam est une mauvaise chose, donc une sorte de racisme anti-musulman, et puis ceux qui critiquent l'islam, et on a tout à fait le droit de critiquer une religion, ou qui se battent contre l'islamisme. Ce débat est intéressant, il existe dans notre journal, dans beaucoup de journaux.
D'autant plus intéressant que les deux, donc si je peux me permettre, Luc Levaillant et vous, écrivez très bien. Et il y a un certain degré d'écriture qui fait accepter au lecteur d'autres positions, il faut le dire aussi. On peut mettre en rage les lecteurs quand on a un choix de mots ou une position qui est très simpliste. Mmh. Et ça arrive beaucoup dans les télévisions.
Ce débat a créé des réactions des lecteurs. Vous avez reçu des
mails. Oui. Bah, nous recevons, je dirais, plusieurs sur le sujet. De toute façon, Israël-Palestine,
oui.
Rien, ni la laïcité, ni le nucléaire, rien n'arrive aux chevilles de la montagne.
On va s'interroger sur cette question. Sur ce sujet, Vincent Lemire, alors vous êtes historien, c'est un mot qui est dans le vocabulaire des historiens ou pas ?
Et c'est intéressant parce qu'on commence la conversation sur les mots alors que, a priori, le cœur de notre métier, journaliste et historien, c'est plutôt la production des faits.
Oui.
La documentation des faits. Et ça, on peut le maîtriser. On a des méthodologies, on a des codes éthiques, déontologiques. On se surveille ensemble, etc.
Je vais vous demander un peu plus tard quel est à chacun, selon vous, un fait journalistiquement établi et un fait historiquement établi.
Mais on est plus à l'aise parce que voilà, je pense que en journalisme comme en histoire, on a une discipline, comme on serait une discipline sportive, on sait comment produire un fait. Et comment le documenter, ça veut dire le sourcer. Il y a plein de termes qui sont les mêmes. Hein. Une source, ça ne suffit pas, il en faut deux ou trois, il faut qu'elle soit convergente, etc. Donc ça, on maîtrise. Par contre, les mots, comme ça vient d'être dit, on ne les maîtrise pas. En fait, ils flottent, ils sont là dans l'espace public. Et ce qu'a dit Dov, Alphon, est fondamental. C'est-à-dire qu'ils sont produits à chaque fois dans un contexte et dans un but particulier. Ce qui fait qu'on peut hésiter à les utiliser d'abord. Alors, Dov, Alphon vient de dire que l'antisémitisme était produit en fait, par l'extrême droite, si je comprends, par des acteurs pour qui c'est une arme, en fait. C'est une arme contre les Juifs, pour essayer de rendre ça scientifique. Par exemple, les historiens, les historiennes, on va essayer, nous, de comprendre comment l'antisémitisme a remplacé d'autres façons d'haïr les Juifs. On parle aussi de judéophobie ou d'anti-judaïsme. Alors, par exemple, quand on parle d'anti-judaïsme en histoire, on renvoie plus à ce qu'on appelle aujourd'hui l'antisémitisme chrétien, traditionnel, on va dire, une haine religieuse, mais qui effectivement a d'une certaine manière un peu disparu, parce qu'on n'est plus dans un monde chrétien, dans un monde catholique,
oui,
etc.
Le déicide n'apparaît pas comme voilà. Quelque chose...
Quoique, c'est toujours aussi intéressant d'avoir la mémoire de ces anciens mots, parce qu'ils contiennent aussi d'anciennes haines qui peuvent ressurgir. Hein. Moi, je dis toujours, attention, l'antijudaïsme chrétien et catholique, il est toujours là.
Oui.
Et il pourrait toujours ressurgir, même parfois chez des gens qui se disent très philosémites en ce moment. Parce qu'il y a un autre mot, des gens qui se disent philosémites ou très pro-israéliens et qui sont, dès qu'on les écoute, des antisémites, j'allais dire, à l'ancienne. Donc, l'histoire des mots, l'histoire du contexte de production des mots, l'histoire des contextes de réception. Mais moi, je me retrouve tout à fait dans ce qu'a dit Dov Alphon, c'est-à-dire que, bon, ça, on maîtrise pas. Historien ou journaliste, on doit essayer de bien les documenter, bien savoir comment ils ont été produits, mais à un moment, j'allais dire, il faut se les prendre, quoi. Il faut essayer de se les approprier et d'y mettre la définition qu'on pense la plus juste possible. Et on peut même, effectivement, voler les mots à ceux qui les ont produits et s'en servir et les retourner contre eux-mêmes.
Il ne s'agit pas de bannir des mots, il s'agit plutôt de lutter pour l'acception du mot.
Voilà, les reprendre à notre compte et les faire marcher dans le sens qui nous semble utile dans le débat public.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Alors nous sommes jusqu'à 19h avec Dov Alphon, directeur de la publication Libération, et Vincent Lemire, historien. Et évidemment, comme on parle des mots et des choses, des mots du débat, et en ce moment, vous nous l'avez dit, Dov Alphon, c'est beaucoup le conflit israélo-palestinien. On va faire comme ça la liste des mots pendant cette émission, mais d'abord, puisque Vincent Lemire nous a parlé des faits, c'est vrai qu'on est là pour produire des faits, et c'est à partir de ces faits que le débat doit se produire. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a un peu une dichotomie et que le débat, peut-être sur certaines chaînes info ou sur les réseaux sociaux, se fait en dehors des faits. Et nous, les journalistes, vous, les historiens, c'est comme si quelquefois on se sentait un peu dépossédé, il y avait deux niveaux. Est-ce que vous ressentez ça aussi, Dov Alphon, et est-ce que vous pouvez nous définir, selon vous, qu'est-ce qu'un fait journalistiquement établi ?
Déjà, je commence par ça, comme c'est assez simple. Pour un directeur de rédaction, un fait établi est un fait que son journaliste affirme tenir d'une source qu'il a pu vérifier avec une source qui n'est pas liée à la première source. Donc ça, c'est ce qu'on enseigne.
Recouper.
Voilà, ça, c'est ce qu'on enseigne dans les écoles de journalisme. Mais nous avons, dans le livre Bible de nous tous, Les hommes du président de Bernstein Woodward, qui est très bien repris dans le film d'Alain Pakula, parce que tout n'a pas été repris. Mais cette scène existe. Ils vont lentement sur tous les scandales Nixon. Ils ne savent pas encore que c'est Nixon. Ils sont très en bas de l'échelle de la Maison Blanche. Mais à un moment, ils se plantent. Quelqu'un leur a donné une fausse information, ou plutôt, ils ont mal compris l'information qu'on leur a donnée.
Écoutez, pour moi, ça manque d'étoffe.
Je ne sais pas si on fait bien de publier ça.
Harry, réexaminons vos sources. Bob, je t'écoute.
Sloan a parlé devant le grand jury. Il a répondu à toutes les questions. Il y a donc bien une trace écrite consignée quelque part.
Il a parlé devant le grand jury, le FBI l'a confirmé, mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus ?
Vous avez contre-vérifié vos sources ?
Un peu, question. Oui. Bernstein, vous êtes vraiment sûr de vos données ?
Absolument.
Woodward ?
Oui, moi aussi.
Eh bien, pas moi. Ça me paraît toujours mince.
Trouvez une autre source.
Et donc, dans le Washington Post, en première page, il y a un fait qui n'a pas existé. L'actionnaire principal du Washington Post va donc convier le rédacteur en chef et les journalistes pour voir ce qui s'est passé. Mais au bout de cette conversation, elle va leur dire « c'est une erreur, mais ce n'est pas grave parce que nous ne sommes que le premier brouillon de l'histoire ». Et c'est une phrase qui est essentielle dans notre métier, mais que peu de journalistes acceptent. Ça leur semble dévalorisant. Or,
on dit généralement qu'on est les historiens du quotidien, mais le premier brouillon...
Nous ne sommes que le premier brouillon parce que forcément nous faisons des erreurs. C'est l'historien qui peut venir des années après, avec archives, avec tout le temps qu'il faut, qui peut décider que ce fait historiquement est valable. Pour le Washington Post, qui doit boucler à 22 heures, il a sa propre définition des faits et quelquefois, il se trompe. Chaque journal se trompe. Et en fin de compte, nous ne sommes que le premier brouillon de l'histoire.
Le premier brouillon de l'histoire, les journalistes, est-ce que ça vous convient, Vincent Lemire ?
Mais ce que j'aime bien, c'est, je pense, ce rapport d'humilité aussi. Je pense qu'on a tous à notre profession. Oui, on sait qu'on se trompe et les historiens, je vous rassure, se trompent aussi. Et d'ailleurs, ils se surveillent et ils discutent, etc. Vous avez dit, le directeur de rédaction, il demande toujours à son journaliste, est-ce qu'il y a au moins deux sources, etc. Moi, je pourrais dire le directeur de thèse, il demande à son doctorant, à son thésard, oui, au moins deux notes de bas de page, au moins deux sources convergentes qui recoupent tout ça, mais ça se joue sur des temps.
Vous faites évoluer l'historiographie sur le travail et les travaux de vos prédécesseurs historiens aussi.
Bien sûr, mais aussi sur des sources journalistiques, et en fait qui ont une valeur incomparable. Et j'allais dire... Je vais dire quelque chose peut-être d'un peu paradoxal, mais la valeur incomparable du travail journalistique, c'est justement qu'il est le nez sur l'événement et que parfois il se trompe. Je m'explique. J'ai travaillé mon avant-dernier livre, il était sur l'histoire du quartier maghrébin de Jérusalem.
Et sur citez-le.
Ça s'appelle « Au pied du mur, vie et mort du quartier maghrébin de Jérusalem ». Et c'est une longue histoire qui s'accélère et qui d'un coup se dénoue en une seule nuit. Dans la nuit du 10 au 11 juin 1967, samedi 10, dimanche 11. Les journaux en Israël paraissent le dimanche. Et le Jérusalem Post paraissait, est paru le dimanche 11 juin 1967. Et puis c'était une grosse édition, puisque c'était pile la fin de la guerre. Le cessez-le-feu avait été signé la veille au soir, le samedi. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce quartier a été détruit dans la nuit du samedi au dimanche. Donc évidemment, j'ai lu toute la presse israélienne du dimanche matin. Et le journaliste du J-Post, comme on dit, il était sur place. Il regarde Et ce qui m'intéresse, c'est justement qu'il ne comprend pas ce qu'il voit. Ce qui m'intéresse, c'est l'immédiateté de sa perception, plus sa rigueur journalistique. C'est-à-dire que...
Ça vous permet de voir le contexte
exactement.
Local et à ce moment-là.
Et moi, ça me permet aussi un petit peu de redescendre, parce que moi, justement, j'ai toutes les archives, j'ai le verbatim du Conseil des ministres, du lundi, où il y a... Voilà, j'ai tout ça, j'ai plein de choses, mais j'ai besoin de retrouver aussi qu'est-ce que c'était que ce dimanche matin, quand les gens, y compris des gens sérieux, rigoureux, comme ce journaliste du J-Post, il arrive... Il voit que le quartier est détruit, il peut faire des hypothèses. Comme il est rigoureux, il les présente comme des hypothèses et non pas comme des faits. Donc, est-ce que c'est l'armée? Est-ce que c'est des entrepreneurs privés? Est-ce que c'est un peu les deux? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Ce que doivent faire les journalistes et ce que doivent faire même d'ailleurs les historiens quand ils sont à bout de faits, à bout d'archives, à bout de preuves, ben, ils ne peuvent plus produire que des analyses et des hypothèses. Mmh. Mais comme ils sont disciplinés et sérieux et honnêtes, en fait, eh ben, il faut qu'il y ait des points d'interrogation à la fin. Il faut qu'il y ait hypothèse 1, 2, 3... et pas que ce soit présenté comme un fait en dur. Donc, ce dialogue, c'est vrai, les historiens travaillent beaucoup, beaucoup avec la presse, et ce qu'ils aiment voir dans la presse, c'est pas forcément que le journal de droite va pas dire les mêmes choses que le journal de gauche, bon, tout ça, c'est tellement attendu, à la limite, mais c'est, j'allais dire, l'immédiateté de la perception de l'événement. Et ça, ça a pas de prix, et pour nous, historiens, j'allais dire, on est souvent, des fois je dis à mes étudiants, on est trop dans le recul, on a trop l'espèce de vision globale, et il faut toujours se souvenir que les acteurs de l'histoire, mais c'est Emmanuel Macron aujourd'hui,
c'est parcelle, oui.
Mais ils sont dans l'instant, ils font des paris sur la suite. Est-ce que Poutine va venir à Istanbul? Hier, on ne savait pas, aujourd'hui, on le sait. Est-ce que Netanyahou va déclencher le feu total sur Gaza? On ne le sait pas. En fait, et les acteurs, ils font l'histoire, mais ils sont dans un brouillard, en fait, complet. Et moi, ce qui me plaît dans le métier de journaliste, c'est d'essayer de voir dans l'immédiateté de ce brouillard, quoi. Et enfin, moi, j'ai beaucoup de... c'est pas admiration, le bon mot, mais comment on fait pour essayer de travailler rigoureusement quand on a un bouclage à 22 heures, quoi. Pour nous, historiens, c'est
vrai qu'avec
complètement mystérieux.
Le Tout Info, les réseaux sociaux, les chaînes Tout Info et l'immédiateté, on est souvent en direct aussi. Il y a le flux sur le web pour les grands journaux comme Libération. On a besoin aussi du recul des historiens. Paradoxalement, alors qu'on parle de l'immédiateté, on a besoin de ce recul-là.
Non seulement ça, mais tous les journaux français qui se respectent ont une double page au moins, c'est quatre pages dans Libération souvent, qu'on appelle chez nous idées, chez d'autres débats, etc., où on laisse la place, ce qui est encore un exercice d'humilité en fait, à des historiens ou des philosophes qui nous disent exactement sur les mêmes événements que nous avons couverts la semaine dernière, mais ce sont eux qui peuvent nous dire, en fait, la France avait déjà essayé ça au 19e siècle et voilà ce que ça a donné, ou bien ce terme a beaucoup été utilisé par cette tribu-là politique que vous avez oublié, mais que moi, c'est ma thèse.
Pourquoi le conflit israélo-palestinien, à votre avis, de Valfon, concentre tant de passion en France? En France, alors bon, première communauté juive, première communauté musulmane, est-ce que ça suffit à expliquer ça?
Déjà, c'est quand même une passion occidentale. C'est vrai qu'au Japon, ça ne fait pas les titres, et en Chine non plus. Mais c'est quand même très important pour le New York Times ou pour la presse allemande. Maintenant, il y a bien sûr le fait qu'Israël est né, comme Arthur Koestler l'avait dit, c'est quand même bizarre qu'une nation, la Grande-Bretagne, va donner la terre d'une deuxième nation, les Palestiniens, à une troisième nation qui sont les Juifs. Et tout ça parce que on vient de massacrer des millions et des millions de Juifs et que l'Occident, donc, pour se faire bonne conscience, va enfin accepter l'idée du sionisme politique qui pourtant existait depuis 1895. Donc c'est d'abord la compréhension des Français, des lecteurs français de ces journaux de référence, qu'ils ont une part de responsabilité dans ces massacres des uns et des autres. On peut voir la même chose dans la presse anglo-saxonne pour le conflit Inde-Pakistan. C'est quand même à cause des Britanniques qui sont partis du jour au lendemain et se sont lavés les mains dans le sang de ces deux peuples du futur conflit que la presse britannique sent bien qu'il y a une part de responsabilité de leurs lecteurs dans ce qui se passe là-bas.
En ce moment, en plus. Ou...
Voilà, quand je suis plutôt optimiste sur la nature humaine, je me dis que ça fait partie de ces remords ou de cette prise de conscience.
Est-ce que c'est pour ça, Vincent Lemire, que le mot sionisme, le concept du sionisme, pose tant de problèmes aujourd'hui ? Pas tant sionisme d'ailleurs que antisionisme. Est-ce que antisioniste, c'est forcément antisémite ? On a fait une émission, là aussi, je renvoie nos auditeurs au podcast sur le sionisme. Mais Vincent Lemire, le mot sionisme, le concept du sionisme, pose des tas de problèmes dans le débat et crée des tas de conflits. Pourquoi ?
Alors, d'abord parce que c'est évidemment un mot qui précède l'histoire d'Israël et l'histoire du conflit israélo-palestinien. Donc c'est un mot qui donne à chacun l'illusion de remonter aux sources du problème. Ce qui n'est pas entièrement faux. Si déjà on met un S à sionisme, déjà, et le grand spécialiste franco-israélien du sionisme, Denis Charbit, par exemple, qui a écrit un sublime volume qui s'appelle Sionisme, avec un S, chez Albin Michel, et que je conseille à tous les auditeurs d'aller lire. Déjà, le plus important, ce n'est pas le S du début, c'est le S de la fin, c'est de lire que dès le départ, il y a des sionismes. Après, alors, si on veut le définir, moi, je dis souvent, il faut lire Herzl, en fait, c'est quand même celui qui s'est chargé d'institutionnaliser tout ça. Alors, il a choisi, il y avait déjà des proto-sionistes avant, mais voilà, il a imposé,
à la fin du 19e siècle.
Une définition simple, et la définition simple, c'est mettre en sécurité les juifs de diaspora menacés par l'antisémitisme. Point. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu des options. Des fois, il y a des gens, y compris d'ailleurs des gens qui se disent antisionistes en disant « Mais il y avait des projets en Ouganda, il y avait des projets... » Mais c'était des projets totalement sionistes. C'était pas le sionisme en Palestine, c'était une des options du sionisme. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, les sionistes du congrès sioniste qui défendaient l'option palestinienne s'appelaient eux-mêmes les Palestiniens. Et les autres s'appelaient les territorialistes. C'était « ça peut se faire sur n'importe quel territoire ». Donc, le bloc, c'est la sécurité, faire un refuge sûr. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en Israël, un certain nombre d'observateurs sont obligés de constater, et moi je les rejoins là-dessus, en disant, mais toute une partie du gouvernement actuel est post-sioniste. Parce qu'en fait, ils mènent une politique qui ne mènent pas Israël à la sécurité. Et de façon très simple, c'est même pas sur les grands...
Eux disent le contraire.
Alors, eux disent le contraire, mais
Israël a le droit de se défendre.
Factuellement, installer plusieurs centaines de milliers de personnes au milieu des territoires palestiniens, ça ne met pas ces gens-là en sécurité. On l'a vu il y a encore 24 ou 48 heures. Factuellement, installer des colons dans la bande de Gaza, ça ne crée pas de la sécurité. Mais d'ailleurs, Smotrich et tout cela, maintenant, ils assument pratiquement ce post-sionisme. C'est-à-dire, ils disent le projet d'Herzl doit être dépassé. Je l'ai entendu dans le projet d'Herzl. Eux, ils veulent restaurer un royaume messianique fantasmé. Ils sont post-sionistes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on lit les débats israéliens, on va se rendre compte d'abord qu'il y a 10 000 façons d'être sioniste, qu'il y a aussi des façons d'être post-sioniste ou anti-sioniste, ou parfois en Israël on dit asioniste. Y a quelqu'un comme Charles Anderlin, par exemple, autre journaliste qui est français, mais qui est aussi israélien, qui a décidé de vivre là-bas. Et des fois, lui, il dit « Pour moi, être sioniste, c'est vivre en Israël ». Et je trouve que c'est une définition qui n'est pas... C'est un juif qui décide de vivre en Israël.
« Asioniste », c'est Shlomo Sand qui...
Oui, ça veut dire...
qu'il faut une grande nation avec tout le monde dedans.
Alors après, il y a le contexte de production et d'énonciation de ce terme. Un juif qui dit « je ne suis pas sioniste », ça peut être tout simplement un juif français qui dit « moi j'ai décidé de ne pas aller vivre en Israël ». Donc je ne suis pas sioniste dans ma vie, mes choix de vie ne sont pas sionistes. C'est très simple. Un non-juif qui dit « je ne suis pas sioniste », ça ne veut pas dire grand-chose pour moi, parce qu'il n'est pas concerné, on ne lui demande pas d'aller vivre là-bas. Un non-juif qui dit « je suis anti-sioniste », alors c'est pareil, c'est pas la même chose s'il le dit dans les années 1920,
aujourd'hui, peut-être qu'il dit « je suis anti-Netanyahou » et il appelle ça antisioniste.
Mais bien sûr, mais ce que je veux dire, le contexte d'énonciation, on a dit antisémitisme tout à l'heure, mais dans les années 1920, on peut dire « le sionisme, c'est pas une bonne idée, c'est pas là, ou alors c'est pas là qu'il faut le faire en Ouganda et en Palestine ». Dans les années 2020, dire « je suis antisioniste », si on sous-entend que c'est « je suis pour la destruction de l'État d'Israël », bah évidemment, ça n'a pas la même portée. Donc, le sionisme est un concept plastique, et donc l'antisionisme aussi. Voilà, contexte de production, contexte de réception, et puis qui parle dans quel objectif ?
Voilà, ça c'était l'avis de Vincent Lemire, l'analyse de Vincent Lemire, l'historien, l'analyse de Dov Alphon, le journaliste.
Elle part du même constat que Vincent Lemire, qui a justement dit qu'on oublie un peu là-dedans le texte fondamental et fondateur, qui est celui de Théodore Herzl, qu'il a écrit rue Cambon à Paris. Ce texte a donc Altneuland.
Donc c'est la fin du 19e siècle.
1895, et c'est né grâce à Alphonse Daudet, qui, avec son fils Léon Daudet, était particulier. Voilà les antisémites majeurs de ce Paris-là, de cette France-là.
La période de l'affaire Dreyfus.
Et ils invitent tout le temps Herzl à leur dîner du lundi, et là.
Donc Herzl va chez les antisémites.
Va chez les Daudet, où il y a Marcel Proust, qui lui est assioniste, du coup. Et Herzl explique son projet à Alphonse Daudet, et avec les frères Goncourt à côté. Enfin, on est vraiment dans un nid antisémite classique. Et Alphonse Daudet écrit, entre autres, « Mais c'est magnifique, c'est une idée magnifique. »
C'est une façon de se débarrasser des Juifs.
Exactement. Nous allons absolument consolider cette idée politique que je trouve merveilleuse, et comme ça, les Juifs pourront partir de France. Or, ce qui se passe aujourd'hui pour moi, c'est que les antisionistes, restons sur ce terme, en France, qui disent Israël n'a pas le droit d'exister parce que c'est la Palestine, etc., rejoignent d'une certaine manière à l'envers ce dilemme. C'est-à-dire, le juif français est supposé partir vers Israël pour les antisémites classiques, mais il est supposé quitter Israël et revenir en France pour les antisionistes de nos jours. Donc, le meilleur endroit pour un juif, c'est en route. C'est ni l'un ni l'autre. Il n'a pas le droit d'avoir un endroit. Et dans ce débat, il est quand même assez frappant de voir que tous les tirades anti-israéliennes tirent fortement vers l'antisémitisme classique en France aujourd'hui, rejoignent en fait la thèse Netanyahou et Smotrich, etc. C'est-à-dire, pour eux, il est essentiel que les Juifs de France ne se sentent pas en sécurité en France, comme ils doivent venir en Israël. Et d'une certaine manière, plus on accepte le fait que des manifestations contre les horreurs à Gaza et les actions génocidaires israéliennes, s'ils incendient au passage un magasin juif, ou qu'ils soupçonnent d'être juifs, c'est dans leur tête, c'est très cohérent. C'est juste pour nous, acteurs de la scène publique ayant une responsabilité là-dedans, qu'il faut dire, attention, il se passe quelque chose, le choix des mots n'est pas innocent.
Il ne faut pas dire aussi, attention, à ne pas assimiler tous ceux qui protestent contre l'action de Netanyahou avec ceux qui pourraient avoir justement ces idées. Mais après, bon, il y a ces questions de slogan de la mère au Jourdain qui peuvent être problématiques et puis qui peuvent.
Je suis tout à fait d'accord. Et c'est dans ce flou. Rappelons aussi qu'on a tendance à ne pas appeler les juifs quand on veut être antisémite. Et donc,
les Israélites.
Les Israélites. Et avant cela, on avait les banquiers de Francfort. Moi, les Juifs, j'ai aucun problème avec les Juifs, mais je condamne fortement les Juifs qui sont assimilés aux banquiers de Francfort et qui donc gouvernent le monde, etc. Donc l'antisémitisme a toujours eu ces noms de code pour le mot juif, vu qu'il était
condamner Netanyahou. Condamner Netanyahou, c'est pas condamner le...
Non, pas du tout. Non, oui. Ce n'est pas ce débat-là. Je dis juste que quand on dit antisioniste, c'est bien ça, sûr. C'est le débat-là. Quand on dit antisioniste, on peut, comme vous le dites Thomas Legrand avec raison, on peut dire en fait « je suis contre la politique de Netanyahou », mais se servir d'un mot qui est en réalité un mot code pour dire antisémite.
On devrait dire, si on suit le raisonnement de Vincent Lemire, antipostionniste. Mais c'est compliqué parce que, vous nous l'avez dit, il y a aussi beaucoup de postionnisme, donc anti-Netanyahou. Voilà.
Le mot en Israël ne veut plus rien dire. Comme, effectivement...
Ça ne fait pas débat en Israël.
Ça ne fait pas débat en Israël, comme plus personne n'est sioniste, puisque une fois qu'ils sont venus, comme Vincent Lemire le disait justement, puis une fois qu'un juif est venu en Israël, de fait, le processus est terminé. Donc on n'est plus sioniste, on est israélien. Et d'une certaine manière, quand on veut dire ce genre de choses, là, je suis tout à fait d'accord avec vous que le choix des mots devient soudain une arme qui peut être facilement retournée contre les uns et les autres.
Relationships, Haïm sur France Inter.
France Inter, en quête de politique. Thomas Legrand.
Jusqu'à 19h, nous nous intéressons aux mots et aux choses de la politique et du thème israélo-palestinien, bien sûr, avec Dov Alphon, journaliste et directeur de Libération, et avec l'historien Vincent Lemire. Alors, on reste sur les mots, on les passe en revue. Il y a eu le mot terroriste pour qualifier les attaques du Hamas. C'est un mot qui est venu à la bouche de tout le monde quand on a vu ces images et quand on a compris le contenu de ces attaques. Mais comme ce mot a une définition juridique et une définition aussi politique, les mots ont des définitions politiques et juridiques qui peuvent différer. Et ceux du débat public ne viennent pas toujours de la définition juridique, plutôt de la définition politique. Il y a eu ce hiatus avec la France insoumise qui n'a pas voulu utiliser le mot politique, le mot général, le mot du bon sens du débat général et qui est resté sur le terme juridique qui, d'un point de vue international, reste assez flou et n'a pas voulu. Là, il y a aussi les mots, quelquefois, ont des sources différentes et c'est un problème pour les acteurs du débat. Vincent Lemire.
Ça a été la première bataille sémantique. Ouais. Elle a commencé dès le 7 octobre après-midi. Et moi, j'étais sur France Inter avec Élie Barnavi le dimanche 8 au matin, et puis ensuite j'ai écrit un texte, je crois, dans la suite de la journée, le lundi, qui a été publié dans le journal Le Monde, je crois, le mercredi, et où on m'a interrogé tout de suite sur le mot terrorisme. Et j'ai pas compris qu'il faille mener cette bataille sémantique, parce que pour moi c'était une évidence factuelle, descriptive, analytique. J'ai dit, si on veut avoir l'intelligence de ce qui s'est passé, si on veut comprendre ce qui s'est passé, on doit d'abord, là pour le coup, décrire qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à terroriser 7 ou 8 millions de personnes en tuant, je suis désolé de dire, mais seulement 1000 ou 1200, ça s'appelle du terrorisme.
En filmant, voilà.
Bien sûr, en filmant, en mettant en scène le caractère horrifique. Donc ça s'appelle du terrorisme. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est que les extrêmes, extrême droite et extrême gauche, ont une histoire politique avec le terrorisme. Je veux dire que c'est précisément à l'extrême gauche et à l'extrême droite qu'on est outillé pour penser les rapports entre politique et terrorisme. Est-ce qu'on a le droit de faire de l'action terroriste? Est-ce qu'on n'a pas le droit, etc. On part pas de zéro. Donc, j'ai pas compris que ça démarre comme ça. Mais effectivement, ça a été un peu le péché originel.
C'est le péché originel. Et après,
il y a d'autres termes, moi, pour le coup, j'ai finalement pas utilisé. C'est pogrom, par exemple,
oui,
que j'ai utilisé pendant quelques heures et puis qu'un ami journaliste israélien à la retraite m'a dit, mais non Vincent, pogrom, c'est un massacre de population civile juive sous couvert d'une armée régulière. C'est ça ce qui se passe, oui, en Russie, hein, les pogroms juifs.
Minoritaires et qui seraient attaqués par, voilà, une majorité.
Oui, mais avec une couverture de l'armée israélienne. Et d'ailleurs, le président israélien actuel, Israël Herzog, il a utilisé le mot pogrom deux fois ces derniers mois pour parler d'un mort palestinien qui avait été tué par des colons alors que l'armée israélienne était présente. Et il a parlé de pogrom, oui, justement pour faire réagir l'opinion publique israélienne. Donc c'est pour dire que parfois, les débats sémantiques sont vraiment très intéressants. Donc j'ai écarté pogrom, on a gardé terrorisme, et puis ensuite on a avancé sur d'autres débats sémantiques qui n'ont fait que s'enflammer,
oui,
de plus en plus.
Et Dov Alphon, à partir du moment où des termes comme terroriste, refuser ou accepter de le dire, définissent des camps, là, c'est mort parce que chaque camp ne veut pas céder, ça devient un totem. Et là, c'est très compliqué pour nous journalistes, d'ailleurs, parce qu'on ne doit pas être prisonnier des totems des politiques.
Oui, je suis d'accord, mais d'un autre côté, les définitions qui sont à la fois légales et journalistiques, du coup, sont tenues, le terrorisme venant d'un acte qui veut faire régner la terreur. Si on se filme en train de torturer et massacrer
la chose est claire.
Des femmes, des enfants, etc.,
c'est pour
on veut créer, ouais, une terreur. Donc là, par contre, effectivement, on rejoint le passé de la gauche, le passé de l'extrême droite sur l'utilisation du terrorisme, est-elle censée, est-elle, etc. Le mot génocide
on va finir avec
légale,
ce mot-là.
Par, ouais, contre, c'est donc quand le président de la République a dit...
Alors là, juste un petit point, parce que le mot génocide, on a dit qu'avec le mot terroriste, il y avait une définition qui est légale, qui est floue, qui dépend des pays, des continents, des instances internationales. Et puis, il y a une définition politique. Avec le mot génocide, on ne peut pas séparer, et il ne faut pas séparer les deux. Il y a une définition légale, et on ne peut pas utiliser dans le débat... normal et courant, le mot génocide en dehors de la définition légale.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a, cela prend plusieurs années pour ces experts donc, qui viennent effectivement non seulement de l'histoire, mais aussi et surtout des termes légaux du terme, pour décider. Mais par contre, il y a beaucoup d'avertissements avant, c'est-à-dire nous vérifions si la politique israélienne vient d'une volonté génocidaire.
Monsieur le Président, ce qui se passe actuellement à Gaza relève-t-il du génocide ?
C'est pas à un responsable politique d'employer ces termes, c'est aux historiens en temps voulu.
Mais d'autres présidents chefs d'État l'ont déjà fait avant.
Oui, mais moi je suis pas dans ce... Je pense que c'est pas ça le sujet.
Ah si ?
Non, pardon. Non. Aujourd'hui, c'est un drame humanitaire et c'est inacceptable.
Et qu'est-ce qui sépare ce drame humanitaire d'un génocide ?
Est-ce que j'ai le droit de parler des femmes et des hommes et de pas rentrer dans des caractérisations tout de suite ? Ce que fait aujourd'hui le gouvernement de Benjamin Netanyahou est inacceptable.
Il y a la volonté, le terme de volonté génocidaire, parce qu'effectivement, on peut pas
ça, on peut
considérer
l'utiliser.
Que le génocide doit être uniquement qualifié a posteriori, parce que le but, c'est quand même d'éviter les génocides. Donc, il y a cette notion de volonté génocidaire d'acte. Qui est en ce moment en débat parmi tous les... Et ça, ce mot-là ne doit pas être tabou.
Non, mais non seulement il ne doit pas être tabou, mais il nous faut quand même réfléchir à la volonté de celui qui l'utilise. Donc s'il veut condamner les actions de Netanyahou et dire son effroi face à ce qui se passe et son impuissance d'agir, on va atterrir très vite sur la politique génocidaire d'Israël ou des actes génocidaires ou des soupçons de génocide. Mais quand on dit le génocide à Gaza... et qu'on est de la vieille branche de cet antisémitisme chrétien, est-ce qu'on ne veut pas dire aussi, en fait, ce n'est pas grave que nous avons massacré ces millions de Juifs, comme les Juifs eux-mêmes sont en train de faire la même chose en Palestine. Et on peut presque le voir selon les acteurs qui utilisent ce mot. Et donc, comment faire la différence ? Ben, c'est tout simplement, je pense, une question de « dis-moi d'où viens-tu, camarade ?» comme disaient les fondateurs de Libération en mai 68.
Comment faire la différence, justement, en discutant comme on le fait aujourd'hui et en comprenant le sens des mots ? C'est intéressant. Sur le mot « génocide », Vincent Lemire ?
Oui, je reprendrai ce que vient de dire Dov Alphon. En fait, c'est un terme qui provoque un court-circuit, à la fois historique et psychique. Et un court-circuit, c'est très dangereux. Hein. Ça fait sauter, ça fait péter les plombs. Ça veut dire plusieurs choses en même temps, et y compris, je pense que Dov Alphon a raison, ça peut vouloir dire, ça peut viser en fait à j'allais dire, annuler le génocide fondateur qui est la Shoah. Alors, c'est vrai
et ça peut en même temps prévenir.
Mais bien sûr, c'est ça en fait le terme. Et c'est pour ça, alors d'abord, on peut l'utiliser au substantif ou en adjectif. Alors, on peut dire le génocide, c'est un génocide. Et ça, effectivement, il faut avoir des capacités juridiques pour le faire. Ou alors, on peut dire, il y a clairement un projet génocidaire. Il y a des intentions génocidaires. C'est
et une certains ministres, le ministre de l'économie, a l'air de...
Mais tout à fait.
Quand il s'exprime, valider ça.
Mais moi, depuis longtemps, en fait, depuis décembre 2023, il y a des déclarations. Il ne faut pas que ce soit des déclarations d'un militant d'extrême droite dans la rue, parce que ça, ça ne suffit pas. Il faut qu'un responsable politique ou militaire qui a des leviers d'action... en Israël, déclare qu'il a l'intention, par exemple, d'expulser la plus grande partie de la population civile de Gaza. Et donc, à ce moment-là, il faut regarder le texte de la Convention de 1948 sur le génocide et se rendre compte que c'est une définition extensive. Hein, il y a des historiens israéliens spécialistes de cette notion qui ont écrit cette phrase que je trouve très forte dans sa simplicité. Gaza n'est pas Auschwitz. Point. Et pourtant, c'est bien un génocide, disent-ils. Eux, ils le disent depuis leur expertise. Mais déjà, pour dire tout de suite, attention, la définition de la Convention de 1948, c'est une définition extensive. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'il y a un continuum entre toutes ces actions. Et que donc, il faut arrêter avant que le pire n'arrive. Donc, vous voyez, on travaille déjà à éviter le court-circuit en disant « Gaza n'est pas Auschwitz ». Et pourtant, ça pourrait être un génocide. Donc, est-ce qu'on utilise le subjonctif ou l'adjectif? Et puis, est-ce qu'on est attentif, effectivement, à cette question de la prévention? Moi, j'insiste toujours là-dessus. Et d'ailleurs, ça me permet de ramener parfois dans la conversation bien des interlocuteurs, y compris israéliens, parfois même pas de gauche, et je leur explique. Je leur ai dit, écoute-moi, la Convention de 48, à laquelle Israël a participé à la rédaction de cette convention et à la réflexion, elle est titrée Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. Ça veut dire qu'on a considéré, en droit international, que ce crime était trop grave pour qu'on attende qu'il soit commis avant de pouvoir intervenir. On a dit, et c'est un impact, c'est une exception en droit. En droit, vous n'avez pas le droit d'intervenir avant qu'un crime soit commis. Même si je suis certain que Dov Alphon veut voler une voiture la semaine prochaine, même si je peux le documenter, je trouve une trace écrite, je n'ai pas le droit de l'arrêter avant. Il faut qu'il vole la voiture pour que je puisse intervenir, ce qu'on appelle le flagrant délit. Mmh. Le crime de génocide, c'est une exception, parce que c'est un crime contre l'humanité. Un juge a le devoir, et même tous les États signataires, d'intervenir avant qu'il ne soit commis. Et donc, il suffit qu'il y ait un risque plausible et une intention génocidaire, donc avec des déclarations explicites, dans cette définition extensive. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de fondamental. C'est que le terme génocide, c'est en fait un vocabulaire performatif. C'est-à-dire qu'à partir du moment...
Alors, performatif, c'est-à-dire performatif, un mot qui crée
c'est un mot action.
Crée une situation. Voilà.
C'est un vocabulaire agissant. Mmh. En particulier quand il est utilisé par un responsable public. Je m'explique. Si un soir, à la télévision, publiquement, Emmanuel Macron dit génocide, dans la minute qui suit, il est obligé d'agir et de faire pression factuellement, concrètement, contre Israël pour que ça n'arrive pas. Vous voyez, c'est un terme qui, dès qu'il est utilisé, doit immédiatement conduire à des actions concrètes pour prévenir ce crime de génocide. Parce que tous les États signataires de la Convention de 48, ils sont responsables, non seulement pour le réprimer si ça arrive, ça veut dire arrêter, par exemple, des nazis qui traîneraient sur son territoire dans les années 60 ou 70, c'est ce qui se faisait, mais aussi prévenir ce crime. Donc, quand on explique ça, on peut déjà ramener un certain nombre de gens dans la conversation pour dire, tu vois, la question là qui est posée, c'est pas vraiment est-ce qu'il y a un génocide substantif au présent, c'est est-ce que les risques sont suffisants pour qu'on soit dans l'obligation d'intervenir? La réponse est oui, trois fois oui.
Merci messieurs, merci Dov Alphon, merci Vincent Lemire. Parler des mots pour pouvoir débattre sereinement et dépolariser, c'est ce qu'on a essayé de faire ce soir. Je vous remercie messieurs.
Merci beaucoup.
Merci.
Enquête de politique est réalisée par Christophe Imbert, archives sonores, Lisiane Larbani à la technique ce soir, Tilaï Ravu et Clément Vuillet. Je vous retrouve dimanche prochain, retour en studio. Nous nous poserons la question de savoir si le trumpisme est un nouveau fascisme. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.